Et je te remercie, Benjamin, pour ton introduction, parce qu'elle était vraiment dans le mille, en fait. Bon, tout ce que le Saint-Esprit suscite est dans le mille, hein. Mais là, il y a une continuité qui est assez extraordinaire. Depuis le début, même les chants, hein, merci David, c'était profond, intense. Le Seigneur nous connaît et il nous visite, il nous sonde. J'avais vraiment cette impression qu'il venait sonder nos entrailles. Alors, les paroles de Fabrice aussi, elles sont vraiment dans le thème. Et le thème du message, j'avais reçu il y a quelques semaines déjà. Le Seigneur m'avait simplement dit, le thème, c'est la préparation. Et je lui ai dit, ok, la préparation, tu veux parler de quoi? La préparation de David avant de devenir roi, la préparation d'Esther avant d'être reine, ou même carrément de Jésus, 30 ans de préparation avant de commencer son ministère. Il me dit, non, c'est pas ça. C'est plus, il a essayé de me montrer comment il fait pour nous préparer. Dieu est un Dieu qui prépare. Et ça montre aussi en fait qu'il connaît les temps. Et lui, il a les temps dans ses mains et il sait tout. Alors que nous, ben non, on apprend à le suivre étape après étape, marche après marche. Et lui, il n'est pas surpris, mais il prépare. Et c'est un thème très très vaste. Alors je lui ai demandé quel est l'angle avec lequel il voulait que je m'intéresse à ce thème. Et en fait, c'était l'angle de l'accouchement. Alors on parle de matrice depuis tout à l'heure. J'ai dit, ok, je crois que je n'ai pas encore très très bien compris ce qu'il voulait me dire, mais peut-être qu'au fur et à mesure du message, ça va venir, mais il y a tout ça hein, qui est là. Alors Manuela a fait mon intro, elle a fait même presque toute ma première partie, non mais je plaisante, mais disons qu'elle a bien introduit le thème aussi, puisque ma première partie, c'était Dieu s'est préparé un peuple. Et pourquoi il a dû préparer un peuple? C'est parce qu'il voulait sauver le monde. Depuis Genèse 3, on sait que le mal est entré sur Terre et que, ben, heureusement, Dieu avait déjà un plan. Hein, il savait très bien, il n'était pas du tout surpris qu'on allait pécher, qu'on allait s'éloigner de lui et du coup, ben, louper la cible. Et donc, il avait prévu déjà, comme je l'avais déjà dit lors d'un autre message, hein, qu'il avait déjà prévu la solution avant même que le problème n'arrive, avec donc l'annonce que la postérité de la femme, donc Jésus, allait écraser la tête du serpent, Satan, et que, bon, alors bien sûr, lui, il lui a blessé le talon. Hein, on a vu que Jésus, il a dû souffrir pour accomplir cette délivrance pour le monde. Et donc il y avait cette annonce, et depuis cette annonce de Genèse 3 jusqu'à l'accomplissement, il y a eu du temps, hein. C'était long, mais c'est arrivé. Et pendant tout ce temps, il y a eu cette préparation. Dieu a préparé un peuple. On ne va pas refaire toute l'histoire du peuple d'Israël, mais voilà, vous connaissez différentes étapes. Et puis le but, c'était de se révéler, de révéler en fait Dieu, qui est Dieu à travers son peuple. Et ça, c'était pour la première venue de Jésus. Et il y a son retour, deuxième venue. Son retour qu'il prépare aussi. Et on en parlera dans la troisième partie, vers la fin, puisqu'il vient chercher son Église. On parlera de l'épouse dans la troisième partie. Et dans la deuxième partie, il nous prépare, nous, comment il fait? Qu'est-ce qu'il utilise pour que, en fait, nous soyons prêts? Donc un peu de suspense, ça vient. Alors pour cette première partie, je voulais qu'on reprenne Éphésiens 2, parce que quand on lit Éphésiens 2, c'est aussi une explication de ce scandale pour les Juifs que des païens puissent entrer dans l'Alliance. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. L'Église est née hein, du côté percé de Jésus. On avait entendu ça, hein. Luc en avait parlé, Vito avait parlé de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? C'est pas une invention que nous, on a faite, c'est Dieu qui l'a voulu. Et elle est née du côté percé de Jésus, où il y a eu donc ce sang qui a coulé, cette eau. Et avec l'effusion du Saint-Esprit, elle s'est développée. Elle s'est répandue, donc, à Pentecôte, et ensuite jusqu'aux extrémités du monde. Alors oui, il y a eu quelques petits problèmes entre-temps, Mais voilà, elle s'est vraiment répandue dans tout le monde connu, c'est-à-dire à cette époque-là, dans tout le bassin méditerranéen, grâce aux apôtres, avec cette puissance de l'esprit qui était sur eux pour annoncer. Et donc dans Éphésiens 2, on commence au verset 11, Paul explique qu'autrefois, nous païens, nous étions hors des alliances, étrangers donc, sans Christ. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Donc ça, c'est toute l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, hein, qui se voit dans la chair. On peut continuer. Souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc j'ai fait tout un message sur les promesses aussi. Hein. Dieu est un Dieu de promesses et il tient ses promesses, lui. Et les Juifs ont reçu un grand nombre de promesses, et notamment la promesse qu'il y aurait un Messie qui allait venir. Et là, Paul enseigne justement à ceux qui n'avaient pas reçu ces promesses qu'ils sont aussi héritiers des promesses alors qu'ils n'ont absolument rien fait, simplement de croire. On peut continuer. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Tu peux continuer. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Continue encore un peu. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre, en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et en fait, c'est ça, le principe, c'est que Dieu veut réconcilier ces deux moments, en fait, le peuple d'Israël qui, comme Manuela l'a dit, s'est détourné, puisqu'il y en a un petit nombre qui a cru, qui a suivi Jésus, mais il y a un grand nombre qui n'a pas cru, qui a rejeté ce Messie qu'ils attendaient pourtant, hein, parce qu'il ne ressemblait certainement pas à l'image qui s'en faisait, et parce que Dieu les avait aveuglés dans sa souveraineté pour qu'ensuite ils puissent envoyer donc ses apôtres pour prêcher la bonne nouvelle aux nations. Et il veut que nous soyons réconciliés en lui. Il n'y a que Jésus qui peut le faire, il n'y a que Jésus qui peut nous réconcilier par son sang pour que nous ayons accès au Père. Pour les Juifs, c'est un scandale. Ce n'est pas possible que des païens puissent avoir accès au Père. Ce n'est pas possible. Il n'y a que eux qui peuvent avoir accès à la connaissance de qui est le Père, qui ont accès à la Torah, qui ont accès aux promesses, etc. etc. Donc là, Paul, clairement, il prêche un scandale. Et vous connaissez le scandale de la grâce. La grâce de Dieu, c'est un scandale. Et il faudra qu'on s'en rappelle, nous aussi, que la grâce de Dieu, c'est un scandale. Parce que si on voit arriver des gens, pas comme nous, et qu'on veut les accueillir, ben peut-être que ça va nous faire un peu drôle, et de se dire, ah oui, le Seigneur, il peut les sauver. Et on va devoir s'en occuper, on va devoir les nourrir, les allaiter comme des bébés qu'ils seront. Donc ça, c'est pour la suite, hein, je vous laisse déjà un petit peu réfléchir à ça. Donc voilà, ce principe du scandale, il m'a bien interpellée. Et dans Éphésiens 2, 8, Paul précise bien, c'est par grâce que vous êtes sauvés, que ce soit pour le peuple juif comme pour nous, hein, puisque personne ne peut accomplir la loi tout seul. Et c'est vrai, ce qui m'avait aussi frappé, ce qu'on voit dans The Chosen par exemple, c'est cette volonté des juifs à toujours rester purs. Et c'est ce que Dieu leur a donné par les ordonnances, par les lois. Il veut justement garder un peuple pur qui ne se souille pas avec les idoles des peuples païens. Et c'était le but, c'était justement de pouvoir accueillir Jésus dans ce peuple pur. Quel peuple aurait pu contenir le Messie si ce n'était un peuple préparé d'avance? Et toutes ces lois, toutes ces prescriptions, elles étaient là pour ça. Et le problème, c'est qu'ils en ont fait un orgueil en disant ben, « nous, on peut, nous, on est le peuple élu, le peuple choisi ». C'est grâce à cet orgueil aussi, c'est à cause de cet orgueil qu'ils ont été aveuglés. Mais en fait, grâce à Jésus, heureusement, on a cette purification, c'est par son sang et pas par nos propres œuvres, hein, comme tu l'as bien dit, C'est pas nos propres œuvres qui nous purifient, c'est pas nos propres œuvres qui nous donnent cette purification, c'est le sang de Jésus. Donc, concrètement, pour nous, deuxième partie, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Dieu s'est préparé un peuple, ok. Le Messie est arrivé, ok. L'Église est née. Elle s'est propagée. Et puis, il y a eu tout un tas de bazar. Parce qu'on a voulu en faire qu'à notre tête, évidemment, comme depuis le début, comme depuis le jardin. On a, notamment sous Constantin, voulu que l'Église ressemble à ce qu'on avait toujours connu dans le paganisme, avec un temple, avec une cérémonie, des bancs où on va chauffer notre chaise, comme dit Harim. Voilà, il y a une Église qui a en fait pris le modèle du monde. Il y a une infiltration comme ça du monde dans l'Église qui a évidemment fait beaucoup de mal. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de revenir à l'Église primitive, de revenir à ce que Dieu a donné en fait au départ. C'est qu'en fait, il a donné des bonnes choses. Et il y avait dans un livre que j'ai lu récemment, dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est dit d'une belle façon, je trouve, c'est que Dieu a envoyé l'effusion du Saint-Esprit dans un réceptacle juif. Et il l'a pas fait pour rien. Il avait quelque chose en tête. Et il y a, suite à ça, des églises de maisons qui sont créées. Il y a eu toute une vie, en fait, dans les maisons. Hein, vous connaissez le passage, hein, qui dit qu'il se retrouvait régulièrement à la synagogue, bien sûr, mais aussi dans les maisons, pour partager le pain et le vin, tous les jours. Ils étaient assidus. Et en fait, c'est comme si, avec les maisonnées, on a beaucoup parlé, Dieu nous parle de ça de nouveau. Le Covid a un peu secoué notre manière de vivre l'Église, et je pense que c'était voulu. Et on s'est laissé faire, et Dieu, il est content, je pense, qu'on se soit laissé faire. Mais je pense que la préparation n'est pas encore allée jusqu'au bout. Il y a encore un petit peu de nettoyage, encore de la purification, parce qu'il veut qu'on revienne à quelque chose de plus simple, de plus familial, de plus vivant. Et pas simplement à une Église qu'on s'imagine, à une Église traditionnelle, qu'on a toujours connue, qu'on a toujours vécue. Il est un peu en train de faire trembler toutes ces choses qu'on connaît, qu'on a connues. Et donc, deuxième partie, Dieu nous a préparés pour de bonnes œuvres. En fait, il a préparé les bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Vous connaissez Éphésiens 2:10. Et ces œuvres, on le voit aussi dans Apocalypse, le fin lin. Hein, alors, c'est Apocalypse 19. Verset 9, je crois. Le fin lin, c'est les œuvres des justes. On le verra tout à l'heure parce que j'y reviendrai. C'est les œuvres justes des saints, donc pratiquer la justice. Et ça, c'est aussi tout un thème. Qu'est-ce que la justice de Dieu ? Il faudrait faire plusieurs messages sur ce thème, je lance l'annonce, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et d'assez puissant, et qui ne correspond pas non plus à nos images toutes faites de ce que c'est la justice de Dieu. Alors quand j'ai préparé ce message, évidemment je suis allée chercher l'étymologie du mot « préparer », parce que j'aime aller chercher l'étymologie, et c'est beau parce qu'en fait ça nous ouvre un petit peu la compréhension de la notion. Donc préparer, donc ça vient du latin prae et du verbe parare. Donc prae, ça veut dire avant ou devant, et parare, ça veut dire disposer, arranger. Et donc il y a plusieurs sens, évidemment, enfin il y a plusieurs nuances de sens, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est disposer, ménager d'avance, arranger, apprêter une chose pour qu'elle soit dans l'état convenable auquel on la destine. Donc par exemple, tout concrètement, préparer un repas, utiliser plusieurs ingrédients pour qu'on puisse manger. Et il y a d'autres sens qui sont intéressants aussi d'un point de vue plus figuré. Installer, mettre en place les causes qui produiront des effets ultérieurs. Donc c'est pouvoir voir d'avance tout ce qu'il faut mettre en place pour un effet. Faire précéder une chose de quelques précautions pour en assurer l'effet. Donc c'est proche, mettre dans une disposition propre à atteindre un but. Et ça m'a parlé, je me suis dit, ah oui, il y a un but. Quel est le but de Dieu ? Pourquoi il nous prépare ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Et en fait, ces bonnes œuvres, finalement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse exactement ? Et donc nous, on a à l'église Josué un énoncé de mission, que vous connaissez tous par cœur, n'est-ce pas ? Allez, vas-y, Giovanna, je t'ai entendu. Petite interro surprise. Tu sais plus ? Donc devenir une femme, on est être une famille. Moi, je dis devenir parce que devenir une famille qui célèbre sa présence, manifeste son amour et incarne son royaume. Alors déjà ça met la barre bien haute, hein. Donc les œuvres, c'est les œuvres du royaume. On est d'accord. On ne veut pas faire les œuvres de la chair. Bon. Dans l'assemblée, bien sûr, entre nous, mais aussi dans le monde. Bon, bah c'est un sacré programme, hein. Je pense que Pasteur, il a été bien motivé. Pour son église, il a une vision haute. Ok, donc pour arriver à ça, quelles sont les étapes ? Comment Dieu nous prépare ? C'est totalement impossible. Il faut le dire tout de suite. C'est impossible. C'est comme le métier d'enseignant, enseignant de la parole encore plus, c'est un métier impossible. Et donc ce n'est pas par nos propres forces, ça c'est clair, impossible, mais par son esprit. Et avec son esprit, tout devient possible. Et en fait, je pense que, c'est parce que je suis une intercesseur, je pense que, moi, j'ai toujours à cœur de nettoyer le canal pour que le Saint-Esprit passe le mieux possible, pour qu'il n'y ait pas d'interférence, qu'il n'y ait pas d'obstacle. Et encore ce soir, je vais encore vous parler de ça, de pouvoir nettoyer tout ce qui reste encore à nettoyer, enlever tout ce qui a besoin d'être enlevé, pour que l'Esprit de Dieu puisse tout simplement faire ce qu'il a envie de faire, pour qu'il soit libre au milieu de nous. Et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas ? Et donc, comme on l'a vu, le corps de Christ a été malade, d'une certaine manière, à cause de cette théologie du remplacement, hein, dont on a parlé, le fait qu'on pensait qu'Israël a été mis de côté parce qu'ils avaient désobéi, qu'ils avaient rejeté le Messie, donc on n'en parle plus, c'est fini, maintenant c'est le temps de l'Église. Bon, ça c'est quelque chose qui s'est développé, qui a vraiment grandi dans les Églises et qui est presque plus ou moins établi dans toutes les assemblées, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas. Et il y a, depuis un certain temps, depuis le début de Josué en tout cas, il y a cet appel à revenir donc à cette racine de l'héritage hébraïque. Mais on n'a pas tout de suite bien compris ce que ça voulait dire. Il y en a certains qui ont judaïsé, qui sont devenus presque juifs. Il y en a même qui sont devenus juifs, qui se sont remis sous la loi. Mais parce que cet appel, il est tellement en dehors de notre out of the box, hein, comme on dit, c'est tellement surprenant que ben on peut arriver facilement à des dérives, mais ça c'est le Seigneur, il s'en occupe. C'est lui qui, le Saint-Esprit, il convainc, il ramène. Si la personne est suffisamment à l'écoute de Dieu, ben voilà, Dieu peut faire beaucoup de choses avec notre immaturité. Il s'occupe de ça. Mais ça nous parle quand même de quelque chose que le Saint-Esprit diffuse dans plusieurs assemblées actuellement. Il n'y a pas que nous, ce n'est pas notre lubie à nous, ce n'est pas la lubie de Manuela, c'est quelque chose qui est donné par le Saint-Esprit depuis plusieurs années et qu'il travaille, qu'il prépare à l'intérieur de son corps. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps, d'un point de vue personnel, à comprendre parce que je regardais les choses d'un point de vue naturel. Je regardais la situation en Israël et je ne comprenais pas ce conflit israélo-palestinien, je ne comprenais pas. Donc c'est déjà complexe, évidemment, d'un point de vue naturel. Et si en plus, ben voilà, il y a cet aspect spirituel qui entre en jeu, ça devient pour le commun des mortels incompréhensible. Donc on doit se placer vraiment d'un point de vue spirituel pour pas rester simplement sur le plan naturel, même s'il y a beaucoup de choses à faire pour aider les deux côtés, pour être des artisans de paix, de réconciliation, etc. Il y a d'ailleurs des belles choses qui se font dans ce sens-là, déjà. Mais d'un point de vue spirituel, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire et notre héritage, malheureusement, en tant qu'Église, Église avec un grand E, a besoin justement d'être nettoyé voilà, de cette fausse conception que Dieu a rejeté Israël. Dieu ne rejette pas Israël, c'est clair et net. Les promesses, elles sont éternelles. C'est, tous les prophètes le disent de cette manière-là. Bien sûr, ils ont aussi le jugement qui va avec leur désobéissance. Mais Dieu, quand il juge, ce n'est pas pour écarter ou pour condamner ou pour faire mourir. Le but, c'est justement de laver, de nettoyer, de purifier. Et je lisais encore Ésaïe il n'y a pas longtemps, voilà, il appelle Israël sans arrêt à la repentance, il appelle Israël à se détourner de ses mauvaises voies, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est ce que nous, en tant que petits frères, on peut faire aussi. On peut les appeler à revenir dans la maison du Père. On reparlera de Luc 15, cette parabole que j'aime beaucoup. Donc Dieu ne renie pas ses alliances, il a fait alliance avec un peuple et l'alliance elle est éternelle. On peut relire Romains 9 hein, qui est très, très impressionnant d'ailleurs comme chapitre qui est vraiment très profond sur l'existence d'Israël et l'explication aussi de pourquoi ils ont été aveuglés pour que l'Église rentre dans le salut, etc., etc. Mais on va essayer de ne pas prendre trop de temps là-dessus. Je pense que voilà, Manuel a bien résumé les choses. Je vous encourage à relire Romains 9, notamment, puis 10 et 11 aussi, qui expliquent tout ça. Donc il faut que nous puissions nous dépouiller du vieil homme. Ça, on peut le voir dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir du verset 17. On peut le relire. Donc notre but, c'est d'arriver à cet homme nouveau. Hein. Vous me suivez, c'est bon, je ne vous perds pas. Ok, donc pour arriver à cet homme nouveau, il faut se débarrasser du vieil homme. Voici donc ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc se débarrasser de nos pensées, de ce qu'on croit être vrai, de ce qu'on croit être ce qu'il faut, etc., etc. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc ça, on le voit bien sûr hein, autour de nous. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et suite à ça, vous avez toute une explication de ce qu'il faut faire en tant qu'Église. Donc on peut le relire, hein. Ça fait toujours du bien. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt, par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Alors ça, on le voit aussi dans Romains 12, que j'aime beaucoup. Hein. Il faut être renouvelé. Renouveler dans notre intelligence, dans notre compréhension des choses. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Dans Romains 12, c'est très clair. Il faut vraiment être renouvelé. On reprendra Romains 12 tout à l'heure, mais on peut continuer encore un peu Éphésiens. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, revêtir l'homme nouveau. On trouve ça aussi dans Colossiens 3:10. Et voilà, il faut se dépouiller des anciens vêtements qui ne sont pas selon Dieu et revêtir quelque chose qui est complètement nouveau. Et donc ça peut être un petit peu désagréable ou bizarre, puisque le nouveau, c'est clair, on n'aime pas ce qui est nouveau. On aime les habitudes, on aime ce qu'on connaît, et aller vers l'inconnu, vers le nouveau, c'est déstabilisant. Et c'est un petit peu ce qu'on vit en tant qu'Église. J'ai bien aimé l'histoire des plantes carnivores qui ont eu besoin d'être replantées, rempotées. On a un jardinier qui en a bien pris soin, mais je pense que Dieu, il a fait ça avec nous. C'est vraiment prophétique, ton histoire de plantes carnivores, parce qu'elles étaient infectées, elles auraient pu mourir. Et on aurait pu mourir. On a été infectés, hein, clairement. Et Dieu, en fait, il prend soin de nous, il nous déplace, nous rempote, on va voir quand est-ce qu'on sera au bon endroit, parce qu'apparemment il y a eu besoin de plusieurs rempotages, si j'ai bien compris ton histoire, Benjamin. Oui. Et en fait, moi j'avais reçu il y a quelque temps la vision d'un corps qui se réveillait d'une opération chirurgicale. Et je crois vraiment que le Seigneur a opéré ou est en train d'opérer une opération chirurgicale dans notre corps, Josué, dans l'Assemblée. Donc c'est pour nous, mais probablement que c'est aussi pour l'Église de France. Je vous le soumets. Mais c'est aussi un des sens du mot préparation, hein, dans le sens de la médecine. Soumettre un malade à un certain régime en vue d'une opération chirurgicale ou d'un traitement, ça s'appelle aussi une préparation. Ça s'appelle aussi préparer un malade. Et cette opération chirurgicale, heureusement, on était assoupis, on était endormis, anesthésiés. Maintenant, il va falloir se réveiller et réapprendre, en fait. Parfois, quand on sort d'un long coma, on doit tout réapprendre. Donc, je ne pense pas qu'on en soit là, je ne sais pas. Mais je pense que le Seigneur était content qu'on se soit laissé faire, qu'on ait accepté cette chirurgie, cette préparation pour les bonnes œuvres qui arrivent. Donc les œuvres, qu'est-ce que c'est ? Il veut aller jusqu'au bout, hein, il veut finir ce qu'il a commencé. Et simplement, ce qu'on fait, dimanche après dimanche, tant de prières après tant de prières, c'est simplement dire, Seigneur, continue. Continue, fais ce que tu as à faire. On est disponible, on se laisse faire par toi, on se laisse tout simplement guérir, purifier, etc. Et je crois vraiment que c'est ce qu'il est en train de faire au milieu de nous, parce qu'on disait qu'on voulait devenir une famille, et on sait que dans les familles, que le principe de la famille, c'est terrible. Je ne sais pas pour vous, je pense que vous avez tous des familles qui fonctionnent magnifiquement bien, aucune famille n'est dysfonctionnelle, tout va bien, il n'y a aucun conflit. Voilà. Donc comme chez moi, c'est pareil, tout est parfait. Mais voilà, devenir une famille, alors on l'a vu concrètement avec Marion, ils sont déjà devenus une famille. En se mariant, on devient déjà une famille. Quand on a des enfants, la famille s'agrandit. Mais on devient une famille. On apprend presque encore. Nous, on a des enfants qui sont plus grands, mais c'est presque comme si on apprenait encore à être une famille. Parce que c'est un processus. Les enfants grandissent. Nous, on vieillit, on change, on a d'autres focus. Et c'est jamais fini, en fait. On apprend toujours à devenir et à être une famille. C'est un challenge. Et donc, on a besoin du Saint-Esprit pour ça. On a besoin qu'il nous montre comment lui veut que nous soyons une famille spirituelle. Parce qu'une famille spirituelle unie, c'est vraiment puissant. Et évidemment, l'ennemi, il ne veut pas qu'on arrive à cette union, cette unité. L'unité, elle est puissante. On voit dans Babel, dans le sens inverse, hein, que rien ne peut les arrêter s'ils sont unis. Mais je pense que dans le sens positif, c'est pareil. L'unité, c'est une puissance. Et l'ennemi va essayer de taper contre ça. Alors, quand on parle en plus d'être unis avec le peuple de Dieu, vous imaginez, c'est de revenir de la mort à la vie, hein, comme on l'a dit. Donc là, Dieu nous prépare, il prépare notre compréhension, notre intelligence. On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Et revenir à un fonctionnement plus proche de l'Église originelle. Par exemple, dans Actes 2, versets 42 à 47, justement, c'est ce qui nous explique un petit peu le fonctionnement des églises de maison, ce qu'on aimerait développer aussi avec les maisonnées. Et je pense que pour que vraiment ça puisse se faire, il faut qu'on comprenne ce qui est l'intention de Dieu dans ces maisonnées, dans ces églises de maison. Donc les apôtres, les disciples, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc ça, c'est la promesse. C'est que si on revient à ce fonctionnement plus proche de l'Église originelle, de l'Église primitive, il y a les prodiges, les signes et les miracles qui vont avec. Parce qu'il y a la puissance, en fait. Il y a un réceptacle qui est purifié. Au lieu de simplement jouer à l'Église, entre guillemets. C'est pas ce qu'on veut, hein. C'est pas ce que je dis. Mais voilà. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à comprendre comment Dieu il veut que nous vivions l'Église. Et je pense qu'on a déjà quelques bribes, on a déjà quelques prémices. Et il continue de nous préparer pour ça. Donc dans Romains 12, 2, on voit hein, que si on offre nos corps comme sacrifice vivant, sain et agréable, quand on célèbre sa présence, ça fait partie de notre vision, de notre énoncé de mission, on veut célébrer sa présence. En fait, quand on célèbre sa présence, on offre nos corps comme sacrifice vivant, sain et agréable. Et c'est un culte raisonnable. Et c'est ce qu'on fait. Et donc à chaque moment de célébration, à chaque moment où on entre dans sa présence, on offre nos corps comme sacrifice. Et donc à ce moment-là, il peut renouveler notre intelligence pour qu'on ne fonctionne plus selon ce monde, mais bien pour discerner, Romains 12, hein, je suis à Romains 12 là, pour discerner la volonté de Dieu. Donc ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Moi, j'aime les choses parfaites. je suis perfectionniste, vous pouvez le dire à mon mari. Vous pouvez le demander, il sait. il sait que j'aime la perfection. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi, c'est ce qu'il aime dire. Voilà. Et en fait, quand j'ai compris que je ne pourrais être parfaite ou que je ne pourrais faire de choses parfaites qu'avec Dieu, je me dis, ok, bah alors Seigneur, viens dans ma vie, fais tout ce que tu veux. Parce que voilà, j'aime les belles choses, j'aime quand les choses sont bien faites, j'aime l'ordre, etc. Et quand j'ai su que ben voilà, Dieu aussi, ça m'a confortée. Mais évidemment, pas par nos propres forces, hein, parce que là, on n'y arrive pas. Hein. Petite blague à part. Donc voilà, le but, c'est de discerner la volonté de Dieu. Car nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde, nous ne sommes pas du monde. Et il nous transforme toujours plus à son image. Et ça, évidemment, c'est voilà, sans cesse. Ça ne s'arrête pas. Je vérifie, parce que c'est un peu le bazar dans mes notes, mais je m'en sors. Je l'ai écrit en deux fois le message. Alors du coup, j'ai rajouté. On arrive à la troisième partie. Ok, c'est bon. J'ai tout dit, enfin je crois. Donc pourquoi doit-on être préparé pour être prêt? En fait, oui, pourquoi doit-on se préparer pour notre destinée? Et Dieu nous prépare pour entrer dans notre destinée. Tout ça, c'est bon. Et donc... Dieu prépare son épouse, une épouse pour son fils. Et ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Paul le dit aussi. Hein. Dieu prépare une épouse pour son fils. Et cette épouse, elle a évidemment une mission, une destinée. On peut voir ça dans Éphésiens 5. Et j'avais entendu un jour, je ne me souviens plus de la référence parce que c'était un audio, j'avais entendu un message qui disait que, en fait, le Saint-Esprit, c'est l'image de celui qui garde l'épouse avant un mariage dans la tradition juive. Il y a l'ami du marié, en fait, le meilleur ami du marié, celui en qui le futur marié a le plus confiance. Il va chercher l'épouse, il la garde. Et jusqu'au moment où il la porte à son époux, je vais y arriver. Donc, ce meilleur ami, il garde l'épouse, il est le garant, si vous voulez, que l'épouse est bien prête, et il l'amène à son mari. Et le Saint-Esprit, il joue ce rôle-là, il garde l'épouse, l'Église, et l'homme nouveau hein, dont on parlait, il la garde et il la prépare. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit sur Terre. Alors, on est à Éphésiens 5, versets 25 à 27. On peut relire rapidement. Donc, c'est le mystère dont parle Paul, hein, que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, et qu'il l'a sanctifiée par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et donc, il encourage les maris à faire pareil. C'est chouette. Beaucoup de travail. Hein. Donc, le Saint-Esprit fait ce travail pour que l'épouse soit sans tache et sans rides et qu'elle arrive préparée, que la préparation soit terminée devant son époux. Et donc ça aussi, c'est tout un travail, c'est toute une préparation, différentes étapes qui sont plus ou moins longues, dont on n'a pas, en fait, Dieu est souverain hein, par rapport à ça. Et nous, nous n'avons qu'à nous laisser faire, à laisser faire le Saint-Esprit. On peut prendre Éphésiens 4, versets 17 à 32, comme on l'avait tout à l'heure. Il y a en fait toute cette préparation qui est décrite. On ne va pas forcément toujours tout lire, mais jusqu'à la fin du verset 32, il y a un certain nombre de recommandations pour la vie d'Église. Et c'est toujours en marche, c'est toujours, on n'est jamais arrivé en fait. Le renouvellement de Romains 12, c'est pareil, il est toujours en route, en marche, continuelle. Et on voit dans Apocalypse 19, versets 7 à 9, que son épouse s'est préparée. Et voilà, c'est ça en fait, que nous puissions dire que l'épouse s'est préparée, que nous aussi, nous nous soyons préparés. Parce que Dieu prépare, mais aussi, voilà, c'est à nous de nous préparer. Bien sûr, il y a la parabole des vierges sages, etc. On voit, on a une action à faire. Ce n'est pas que Dieu qui fait son action souverainement. Donc, nous devons aussi nous préparer pour les noces de l'agneau. Son épouse s'est préparée. Soyons actifs, restons à l'écoute, laissons-nous travailler, guérir, restaurer, purifier, pour que justement nous puissions revêtir ce fin lin, ces œuvres justes des saints. Pour la gloire de Dieu, puisque tout est pour, par et de la gloire de Dieu. C'est de la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, par la gloire de Dieu. Je ne sais pas dans le sens là, mais de la gloire de Dieu, par la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Je crois que là, c'est un petit peu plus juste. Donc, pourquoi on doit être préparé pour être prêt? Mais pour être prêt, pourquoi? Pour les œuvres justes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et je voudrais finir avec la parabole des deux fils, parce qu'on peut la comprendre de plusieurs manières, en fait. Et je pense que, comme toutes les paraboles, il y a plusieurs degrés de compréhension. Mais je parlais de famille tout à l'heure, et en fait, cette parabole, elle parle de deux fils qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, hein, on est d'accord. Il y en a un qui demande son héritage à son père et qui s'en va. L'autre qui reste, et quand il voit revenir le frère, il n'est pas content du tout. Alors que le père fait la fête, il a une certaine amertume et on ne sait pas si finalement il va rentrer et s'il va faire la fête ou pas. Est-ce qu'il va se réjouir avec son père ou pas? Et en fait, d'une certaine manière, j'avais compris cette parabole d'une certaine façon. Mais là, c'est comme s'il y a en fait une autre manière que le Seigneur me donne. C'est aussi, est-ce que nous, en tant qu'Église, on va pouvoir se réjouir d'accueillir des gens qui ne ressemblent pas à ce qu'on s'imagine? Est-ce que de temps en temps, on peut aussi se mettre en position d'aîné? Parce que souvent, on se met en position de cadet en tant qu'Église qui s'est éloignée de Dieu et qui est revenue. Et on considère que l'aîné, c'est le peuple juif. Et c'est vrai, ce n'est pas faux. Hein. Mais est-ce que nous aussi, en tant qu'aîné, on peut se positionner en tant qu'aîné et voir arriver des cadets puants et se dire et se réjouir? Ouais, super, ils reviennent à la maison et ils vont faire la fête avec le père. Est-ce qu'il n'y a pas parfois une certaine jalousie aussi qui peut venir? Dans les deux possibilités de compréhension de cette parabole, parce que il est dit hein, dans la Bible que c'est aussi par la jalousie qu'ils auront, que le peuple juif aura de voir ce qui se passe dans l'Église, qu'ils vont se poser des questions, qu'ils vont se demander mais comment vous pouvez vivre ça, comment vous pouvez vivre la gloire du Père, la puissance du Père, alors que voilà vous n'êtes pas juif. Donc cette parabole est vraiment particulièrement forte pour les temps qui arrivent, je pense. Et en fait, le point de départ, c'est que Jésus mange avec des pécheurs et ça scandalise les Sadducéens et les pharisiens. Et il donne donc trois petites paraboles pour expliquer justement la grâce de Dieu, pour qu'on comprenne quelle est la grâce extraordinaire, infinie, scandaleuse du Père. Et ça aussi, on n'a jamais fini de le méditer et de le comprendre. Et j'aimerais que justement on puisse prier par rapport à ça, pour nous préparer peut-être aussi un petit peu à ces 3 semaines d'intercession en faveur du salut d'Israël. Et ce matin, j'ai encore vécu quelque chose qui confirme un petit peu aussi ce focus d'intercession par rapport à la jalousie. Parce que aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma sœur, de ma toute petite sœur, avec qui j'ai 15 ans d'écart. Et j'ai toujours considéré qu'elle avait été, évidemment, la chouchoute, comme on peut avoir un petit chouchou, une petite cerise sur le gâteau. Et elle n'a pas du tout été élevée de la même manière que moi, puisque voilà, on a 15 ans d'écart, c'est presque une génération. Bref, on n'a pas du tout eu la même éducation, et moi j'ai toujours trouvé qu'elle avait la vie beaucoup plus facile que moi, puisque je suis l'aînée, et qu'elle, voilà, elle est arrivée, mes parents, ils avaient déjà un certain âge, mais elle avait aussi 4 grands frères et sœurs qui n'arrêtaient pas de la chouchouter, bien sûr. Donc, pour moi, je trouvais que voilà, elle avait toujours été chouchoutée, et c'est pas juste, moi j'ai dû me battre, bref. Les trucs humains, la chair dans toute sa splendeur. Et ce matin, je me suis repentie pour ça, parce qu'au final, quand même, si on laisse la jalousie rentrer, même si on a le droit, on n'a jamais le droit, hein, mais même si ça peut se justifier d'une certaine manière, finalement, la jalousie, c'est mauvais, c'est vraiment un poison. Hein. Et je sentais finalement que ça m'avait éloignée de ma sœur. Et je me suis rendue compte ce matin que finalement, notre relation... Elle n'était plus trop là. Et j'en ai pleuré. Enfin, je veux dire, c'était dur. Et je lui ai écrit un petit mot, une petite lettre. Alors, à une certaine époque, on écrivait de longues lettres. Et puis maintenant, on écrit des SMS, un WhatsApp. Et je lui ai écrit ça et je lui ai demandé pardon, en fait. Et j'espère bien que notre relation va refleurir d'une certaine manière. Parce que maintenant, elle est adulte. Hein, et que, voilà, elle est à l'heure de construire sa vie à elle. Mais je pense qu'on peut racheter le temps avec Dieu et qu'il y a ce pardon qui est toujours possible et cette résurrection qui est toujours là, qui peut naître du pardon et qui peut tout recommencer. Et du coup, je voulais vous encourager en fait à vivre ça aussi et à nous encourager en fait à vivre ça en tant qu'Église par rapport aussi au peuple juif. Parce qu'on peut se mettre dans la position du cadet et se réjouir avec Dieu, mais aussi appeler l'aîné, allez, viens te réjouir avec nous, reste pas sur le bord du chemin, reste pas devant la maison, rentre, viens avec nous. Et plusieurs fois, j'avais reçu ça, en fait, dans des temps d'intercession, à appeler prophétiquement, en fait, le fils aîné à rentrer, lui aussi, dans la maison du père, à revenir se réjouir, à faire la fête, à comprendre ce que c'est la grâce, que ce soit plus un scandale, en fait. C'en est un pour l'esprit humain, mais pour Dieu, c'est son cœur, c'est juste qui il est. Et On peut prier par rapport à ça et voir en fait ce que le Saint-Esprit nous met à cœur et comme une préparation au temps d'intercession qu'on va vivre pendant ces 3 semaines pour qu'on puisse comprendre en fait toujours plus que la révélation de Dieu en tant que Père, de sa grâce scandaleuse et de toutes les conséquences que ça a ensuite dans nos vies, dans le monde, dans notre Église, ça peut avoir ensuite ce qui est... Voilà, et puis je sais que ce temps d'intercession, il va aussi déboucher sur une autre compréhension, sur un autre temps. Donc simplement accueillir ce que Dieu fait en ce moment, cette préparation qu'il fait pour son Église, pour nous, et continuer à prier les prières de l'Esprit et recevoir ce qu'il nous donne en fait. David, si tu veux bien venir jouer un peu, si ça ne te dérange pas. Donc simplement, on va se poser... Tout simplement devant Dieu. Saint-Esprit, simplement, je te demande tout simplement pardon pour ces mauvaises compréhensions que l'on avait de toi, de ton peuple et de l'Église. Et comme tu veux nous transformer par le renouvellement de l'intelligence, je te demande vraiment de venir transformer, renouveler notre être intérieur. Renouveler nos pensées parce que nos pensées ne sont pas tes pensées. Et on veut simplement rejeter tout ce qui n'est pas de toi, renoncer aux mensonges qui se sont infiltrés, tout ce qui a été là pour infecter en fait la compréhension, brouiller, aveugler d'une certaine manière notre compréhension de qui tu es en tant que Père, qui ne renie pas ses alliances, qui ne tourne pas le dos, qui est toujours présent. Mais par contre, nous, on peut simplement être aveuglé par ces mensonges et par cette mauvaise compréhension. On a besoin de ton Saint-Esprit qui vient pour nous renouveler. Renouveler notre compréhension, renouveler notre cœur aussi. Venir visiter nos entrailles pour que nous puissions comprendre de l'intérieur et pas simplement dans la tête, pas simplement dans notre intelligence, mais que ça inonde tout notre être. Parce que tu es un Dieu de famille. Tu nous parles des relations dans les familles. Je te demande, Seigneur, de nous expliquer, de nous montrer, de nous faire comprendre à l'intérieur de nos cœurs, de notre être intérieur, ce que ça veut dire être une famille selon toi. Et qu'ensuite nous puissions le vivre entre nous, le vivre dans nos familles et dans notre famille spirituelle. Et ensuite l'élargir. Que nous puissions être réconciliés. Tu nous envoies comme des agents de réconciliation. D'abord en nous-mêmes, corps, âme et esprit. Ensuite les uns avec les autres. Ensuite les nations. Tu nous donnes les nations pour qu'elles soient réconciliées avec toi. Les peuples de toute langue, de toute tribu. Et on veut renoncer à la jalousie maintenant. On veut renoncer à tout ce qui a pu venir à travers cette jalousie, à travers cette mauvaise compréhension, toutes les conséquences que ça a pu avoir sur l'Église qui est censée être ton peuple, qui est censée te représenter, parler pour toi. On veut renoncer à cette jalousie maintenant. Merci pour ta grâce infinie et qui est nécessaire pour chacun de nous, juifs comme non-juifs. Personne ne peut être juste par ses propres actions. Nous voulons proclamer ton amour. Nous voulons proclamer que l'amour et la grâce extraordinaire de toi, Père, elle est pour tous. Qu'il n'y a pas de préféré, qu'il n'y a pas de jaloux devant toi. Pas besoin d'être jaloux. Et l'aîné, le frère aîné, il n'est pas rejeté. Et on l'appelle. On appelle à entrer. On l'appelle à rentrer, venir faire la fête avec le fils cadet. À se réjouir. À comprendre ce qu'est la grâce infinie du Père. Merci Seigneur parce que tu prépares ton Église, tu prépares ton épouse. Et tu le fais par ton Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, sois libre au milieu de nous. Sois libre au milieu de nous maintenant.